CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Bonjour tout le monde, salut Rémi.
Salut Aurélien, salut à tous. À qui le tour, tous les jours de la semaine, de 17h à 19h, du rock, de l'info, des cadeaux. Côté info Tarn-et-Garonnaise, sur cette prochaine demi-heure, on va s'intéresser à la projection que propose le Cap Cinéma Le Paris à Montauban. On est donc dans ce cinéma qui est resté au cœur de la ville et qui vous propose ce soir un documentaire histoire. La fabuleuse histoire de Monsieur Riquet, le créateur du Canal du Midi. Alors, c'est un film de Jean Périsset. Nous avons le plaisir de le recevoir ici ce soir. Bonjour Jean Périsset.
Bonjour.
Merci d'être là. Et merci à vous, Michèle Tesser, aussi d'être là, co-scénariste, et auteur du roman historique Monsieur Riquet. Vous serez présente, vous aussi, ce soir, donc, à la projection.
Bien sûr.
C'est une projection qui est proposée par Henri Guest, si j'ai bien compris. Hein. Merci, Henri, de nous avoir permis cette rencontre ce soir. Bonjour.
D'accord. Bonsoir.
Alors, la fabuleuse histoire de Monsieur Riquet. D'abord, est-ce qu'elle est si fabuleuse que ça? Monsieur Riquet, c'est donc Pierre-Paul Riquet. On l'a déjà évoqué ici à plusieurs reprises parce que il y a pas mal d'ouvrages finalement qui sont faits autour de ce canal du Midi. Alors on se trompe hein, aussi souvent, il y a le canal du Midi, il y a le canal des deux mers. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? On sait plus trop. Et puis ce Pierre-Paul Riquet, est-ce que dans le documentaire que vous proposez ce soir, vous nous dites qu'il n'était pas forcément aussi légendaire que ça, hein, que l'histoire l'a beaucoup enjolivé finalement?
Disons que c'était un personnage légendaire en ce sens que la légende a pris le pas sur l'histoire. Et notre travail, ça a été un travail, disons, de chercheurs, hein, au même titre que les historiens qu'on a interviewés, les descendants. Nous avons essayé de faire un parcours, de remonter le temps et de voir en quoi Pierre-Paul Riquet était tout à fait différent de ce que nous a apporté la légende du 19e siècle. Le 19e siècle a été horrible pour nous donner des vérités et des contre-vérités surtout. Et notre travail, ça a été de fouiller ce passé et de trouver un personnage, mais vraiment fabuleux, très intéressant, beaucoup plus intéressant avec ses failles. Mmh. Et je pense que les zones d'ombre sont aussi intéressantes, sinon plus, que, disons, les stèles qu'on a pu lui dresser, quoi, voilà.
Alors, le point de départ, c'est au départ une association qui s'appelle... Un film sur Riquet, hein, tout simplement, qui fait appel à vous pour tourner un biopic, quoi.
À moi, pas forcément, à la profession. Mmh. C'est-à-dire au cinéma, il regrettait que le cinéma ne s'intéresse pas à ce personnage fabuleux comme... Et alors, ils ont fait appel à la profession, et je crois que j'ai été le seul à répondre, à m'intéresser. Bon, je me dis, pourquoi pas? Mais Riquet, pour moi, c'était un personnage lisse, bon, l'inventeur de la sécurité sociale, le bon père de famille, tout ça, enfin, très bien, trop bien même, trop lisse. Et j'en ai parlé à Michel Tesser, donc écrivain, et qui m'a dit, mais peut-être qu'il y aurait quelque chose à voir, à gratter. Et en grattant, effectivement, les archives, on s'est aperçu que ça pouvait être un personnage romanesque, donc intéressant pour une fiction.
Alors vous avez écrit un roman, donc le roman historique Monsieur Riquet.
Voilà, moi je suis partie, alors nous avons travaillé ensemble pour ce qui est des recherches, donc je suis partie des mêmes bases historiques, des mêmes bases documentaires.
Donc hein, à l'arrivée, il y a un documentaire et un roman, c'est ça hein.
Voilà, c'est-à-dire que chacun a traduit selon ses aptitudes, selon ses affinités, moi à travers l'écriture et Jean Périsset à travers les images. Voilà, j'ai collaboré également à l'écriture du texte, hein, du texte courant dit par, notamment par le comédien Bernard Lecomte.
Alors, ce monsieur Riquet, il existe sous Louis XIV, je crois, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Racontons un peu son histoire. On ne sait pas trop quand est-ce qu'il naît ou est-ce qu'on sait, on sait précisément
Ben, tout ça, tout ce que vous voulez qu'on dise, on le voit dans le film.
Oui, mais...
mais par contre, je voudrais revenir sur une chose. Effectivement, ce que nous présentons ce soir, c'est un documentaire, un film de cinéma documentaire. Mais Michel a écrit un roman. En fait, nous sommes en train de réaliser un triptyque. Il y a trois volets. Mm-hmm. Le premier, c'est ce documentaire d'investigation, si vous voulez. Michel a écrit une fiction sur les mêmes bases. Et le troisième volet, ça sera effectivement un film de fiction pour le cinéma, avec également Bernard Lecoq dans le rôle de... dans leur rôle titre.
Hein. D'accord.
Voilà. Bon, vous n'y couperez pas, il va falloir qu'on en parle un petit peu de sa vie, parce que sinon, on peut pas juste dire comme ça, bah, c'est ce soir que ça se passe au Cap Cinéma, le Paris, à 20h30, ce sera 5,80€ l'entrée, vous serez présents tous les deux pour en discuter ensuite, mais il va falloir quand même qu'on mette un peu plus l'eau à la bouche aux gens, d'accord ? Allez, on fait ça juste après la pub.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs. CFM, le MAG. Tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
Vite, vite, faut y aller, c'est moins 20.
Mais c'est pas moins 20, regarde la pendule.
Je te dis que c'est moins 20.
Non mais t'es givré, regarde sur ton téléphone.
Givré, moi? Ah non, plutôt chaud, et très chaud même. En ce moment, sur les poêles et cheminées Richard Ledroff, c'est moins 20% de réduction immédiate.
Vite, faut y aller.
C'est bien ce que je disais, faut y aller.
Courez vite chez les maîtres du feu, 28 avenue Chamier, à 200 mètres de la gare à Montauban. 20% de remise sur toute la gamme Richard Ledroff. Rendez-vous sur lesmaîtresdufeu.fr. Les maîtres du feu offrent vous l'excellence.
Le mercredi 23 avril, la ville de Montauban organise une nouvelle édition de la chasse aux œufs. Tous les petits Montalbanais de moins de 6 ans sont attendus de 14h à 16h30 au Jardin des Plantes pour une aventure gourmande et gratuite. Chacun repartira avec son lot de chocolat à déguster sans modération. Rendez-vous le mercredi 23 avril à partir de 14h. Invitation à retirer à l'accueil de la mairie pendant les heures d'ouverture, sous réserve des places disponibles.
Montauban, le goût de l'avenir.
Du 26 mai au 1er juin, le festival Alors Chante revient pour sa 29e édition. Un rendez-vous incontournable de la chanson francophone. Plus de 60 artistes pendant 6 jours à Eurythmie Montauban. Avec Fauve, Renan Luce, Jacques Higelin, Gaëtan Roussel, Thomas Fersen et bien d'autres. Cette 29e édition du festival Alors Chante s'annonce pleine de surprises avec bien sûr Moments Zik et les découvertes. Du 26 mai au 1er juin, festival Alors Chante, site Eurythmie à Montauban. Infos et réservations sur Alors Chante.
Psst, vous voulez un secret pour vendre facilement vos jeux vidéo, votre matériel informatique, vos bijoux, bref, convertir tous vos objets en cash? Eh bien, approchez-vous, là, près du poste. Ça y est?
Allez dans le magasin Cash Converters qui vient d'ouvrir près de chez vous. Ils convertissent tous vos objets
en cash!
Ah oui, ça surprend.
Cash Converters convertit tous vos objets
en cash!
Soyez prêts! Votre nouveau magasin Cash Converters à Montauban. Galerie marchande Auchan, face au parking. Ouvert de 9h30 à 19h30 sans interruption.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Alors, Pierre-Paul Riquet, né à Béziers.
On n'en sait rien.
Ah, quelque part entre 1604 et 1609.
On ne sait pas non plus.
Ah, c'est terrible.
On sait très peu de choses sur Riquet. La légende a fabriqué, une histoire de Riquet, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Les textes, bon, on a eu la chance de suivre un chercheur, Michel Adjé, qui a dépoussiéré toutes ses archives et qui a fait des révélations extraordinaires, quoi. Bon, pourquoi il s'appelle Pierre-Paul aussi, tout simplement parce qu'il serait né le jour de la Saint-Pierre et Saint-Paul, le 29 juin. Bon, ça aussi, c'est une légende.
Bon, c'est une famille noble de toute manière. Il naît dans une famille noble parce qu'il a beaucoup de sous, non, quand même, pour faire ce qu'il va faire. On le sait pas non plus.
Là non plus,
mais
on enfin,
on ne sait rien. Ouais.
Mais c'est ce qui était excitant dans l'affaire, c'est que on croyait tout savoir et en fait, on savait très peu. Ouais. Et donc, on a eu à partir de ce moment-là, il y a une démarche d'enquêteur, de détective qui s'est mise en place. Et donc on est allé à la pêche aux renseignements auprès de gens qui avaient travaillé sur le sujet bien avant nous, des historiens, des amoureux du canal et puis ce fameux personnage auquel Jean Péri s'est fait allusion, en l'occurrence Michel Adjé, qui est l'auteur, qui est vraiment un chercheur et qui est l'auteur d'une thèse assez pharaonique et qui vraiment, alors lui, il a fait un travail de détective à la Sherlock Holmes, en allant sur les lieux du crime, si on peut dire, en épluchant toutes les archives, dans les églises, les registres de naissance, etc. Voilà, ce qui a permis de dépoussiérer et d'aller de découverte en découverte. découverte, surtout sur à la recherche de la vérité du personnage dans son époque.
Rassurez-moi, on l'avait oublié. Rassurez-moi, c'est quand même lui qui est à l'origine de la construction du canal du Midi. On ne sait pas non plus.
À l'origine, on ne sait pas. Même d'accord. Je dirais non, c'est pas lui. C'est
ah
pas
oui,
lui.
Carrément.
Disons qu'il a été le chef d'orchestre. Mais ce qui est intéressant, c'est justement parce qu'on ne sait pas grand-chose. Ça a permis au narrateur, Bernard Lecoq, de prendre un ton badin et de poser des questions auxquelles il n'a pas de réponse. Et ça nous a permis de raconter une histoire de façon avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de rythme endiabé. Et bien en même temps, parallèlement, nous avons aussi le rythme très très lent, pesant de l'eau verte du canal. Voilà.
Bon alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que la légende veut que Pierre-Paul Riquet ait construit ce canal des deux mers, qu'il n'en ait jamais vu la fin, puisque ça va de 1660 à 1690, quelque chose comme
80.
Ça.
80.
Et, 80, 80, ouais. Et lui ouais. va mourir peu de temps avant.
Ça c'est vrai.
Ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Que quand il a monté ce chantier, vous avez dit tout à l'heure qu'il était un peu l'inventeur de la sécurité sociale, c'est parce qu'en fait il a embauché des ouvriers qui payaient même quand ils étaient malades, enfin il leur a fait des ponts d'or pour qu'ils puissent venir bosser.
Ce n'est pas lui qui a inventé ce système-là, c'est à Versailles, parce qu'il faut dire qu'il y a, à cette époque-là, il y a deux chantiers importants. Il y a Versailles et le canal de Languedoc. Et il n'y a pas d'ouvriers à l'époque, il y a des paysans, et pour retenir les paysans en période de moisson, il faut bien avoir de la main-d'œuvre, et bien on va les payer. C'est pour ça qu'ils ont été bien payés, et c'est pour ça que lorsqu'il pleuvait, lorsqu'ils étaient malades, et bien on voulait les maintenir à la tâche.
Pour pas qu'ils repartent chez eux.
Exactement.
Parce que sinon ils risquaient de rentrer au village pour aller à la ferme.
Exactement.
D'accord. Quand on dit le canal du Midi ou le canal des deux mers, c'est le même ?
C'est le même.
C'est le même.
Mais absolument. Il a changé de dénomination au cours du temps. C'est-à-dire que c'était au départ le canal royal du Languedoc ou le canal royal de jonction des deux mers. Ça, c'est à l'origine au XVIIe. Ensuite, à la Révolution, c'est devenu le canal du Midi. Il a été, on peut dire, on lui a ôté sa particule, entre guillemets. Oui. Voilà. Donc
il a été donc construit bien en une trentaine d'années, ce qui est assez rapide finalement.
Moins que ça, 15 ans.
C'est un chantier absolument pharaonique. Comment ça s'est fait ? Ils sont partis des deux bouts, comme pour le le tunnel sous la Manche, et puis ils se sont rejoints au milieu.
Oui, c'est-à-dire que il y a une partie, ça a été Toulouse vers Castanet, etc., vers Naurouz. Et de l'autre côté, il y a eu après, on remonte le port de Sète qu'on a trouvé, qu'on a construit, on remonte et puis après. Après, il y a, disons, ce grand bief qui va zigzaguer parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous pour creuser des écluses. On va faire un bief de 30 kilomètres qui va serpenter, qui fait toute la poésie de ce canal pour les navigateurs. Hein, voilà. Alors, ce qu'il y a de paradoxal aussi, c'est que au-delà de Toulouse vers Bordeaux, on appelle toujours le canal des deux mers le canal du Midi. Par analogie, si vous voulez. Et j'ai rencontré aussi des riverains du canal latéral à la Garonne qui appellent le canal du Midi et qui croyaient que c'était également Pierre-Paul Riquet qui avait construit ce canal. Or non, ça a été construit au XIXe siècle, à une époque où on a enterré déjà le canal puisque... Parallèlement à
la ligne de chemin de fer,
qui est construite à côté en parallèle.
Alors celui de Pierre-Paul Riquet, il va d'où à où ?
De Toulouse à Sète.
De Toulouse à Sète, voilà. Donc ça, c'est le canal du Midi, on va dire. Et puis de Toulouse à Bordeaux,
à Castette d'Orte, voilà.
Ça, ce serait le canal des deux mers.
Le canal latéral. Voilà.
D'accord. Et l'ensemble des deux, c'est le canal des deux mers. C'est ça?
Le canal de jonction ou de communication des deux mers, c'est-à-dire Atlantique et Méditerranée.
Sous Louis XIV, c'est une volonté de commercer. C'est une voie importante de pour le commerce, le canal.
Ben, c'est une revanche par rapport au roi d'Espagne. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de transiter par Gibraltar. Donc les pirates du roi d'Espagne sont privés de marchandises. Hein, donc c'est un moyen aussi d'enrichir la contrée, le Lauragais et notre sud, quoi, notre Languedoc.
Oui, ben les droits de péage, il y avait des droits de péage quand on traversait un pays, en l'occurrence l'Espagne. Chaque frontière entraîne des droits douaniers. Hein, ça n'a pas changé, sauf avec l'Europe. Donc c'était un moyen d'éviter ça, d'éviter la concurrence, on l'a dit, les pirates espagnols, Le danger également de Gibraltar, hein, où il y a une mer agitée, un passage agité, et puis de concurrencer la Hollande. N'oublions pas qu'à cette époque, le royaume est en guerre avec la Hollande, qui est la grande puissance montante en Atlantique. Hein, ça avait commencé déjà au XVIe, mais vraiment, c'est la puissance émergente. Or, on est à une époque du historique, hein, pour la France, où on a besoin d'un commerce florissant et donc de voies de communication plus aisées que celles des routes qu'offrent les routes à l'époque, qui sont en très mauvais état en plus.
Il y avait des exemples, ça fonctionnait par exemple en Hollande ou ailleurs, est-ce qu'il y avait des canaux qui sur lesquels on s'est appuyé sur ces exemples là pour faire le canal du Midi?
Hollande, ouais. Et Italie du Nord. L'Italie du Nord était très avancée comme la Hollande, mais l'Italie du Nord surtout au niveau des écluses, des systèmes d'écluses, de tout cet aspect technique. D'ailleurs, pour la petite histoire, à un moment donné, on fait appel à des charpentiers d'écluses, de Hollande. En pleine guerre de Hollande, Colbert fait venir des Hollandais pour conseiller Riquet.
D'accord. Et des Italiens également.
Italien avant, bien sûr.
J'allais vous demander justement si ce Pierre-Paul Riquet, il avait voyagé, s'il était allé voir avec Colbert et les autres in situ, ou bien s'il avait fait venir justement des gens de savoir-faire.
Voyager, je ne pense pas.
Non.
Non. Il a fait venir des gens, oui, effectivement. Il voyageait pour son métier, hein, pour la gabelle, puisque c'était un receveur, c'était un financier, hein, collecteur d'impôts. Ce n'était pas un ingénieur, mais à force de travail, il est devenu ingénieur sur le tas, par empirisme. Et il était le directeur par exemple, quand il a voulu faire les écluses de Fonsorane près de Béziers, hein, c'est-à-dire c'est un escalier d'eau, il y a 9 écluses qui se succèdent, c'est lui qui l'a inventé. Bon. Il a pensé aux fameuses écluses de Briard aussi, hein, dit-on, mais bon. Qu'est-ce qui est de lui? Bon, le canal du Répu, enfin le canal, le pont du Répudre aussi, c'est lui qui a décidé qu'on ferait un pont canal au-dessus du Répudre.
Et celui de, il est plus tardif ou il en fait partie, celui qui est à Moissac, le pont canal de Moissac?
Ah, c'est le 19e.
Eh oui, voilà, ça c'est, ouais, c'est ça.
Ça c'est bien plus tardif.
Ça c'est bien plus tardif, d'accord.
Disons que le canal n'aurait pas vécu s'il n'y avait pas eu Vauban. À la mort de Riquet, le canal est ensablé. Il ne fonctionne pas. Il est même question de l'abandonner et de l'arrêter. Et il a fallu le génie de Vauban pour le rendre navigable. C'est-à-dire qu'il a repris ce qu'avait fait Riquet au Répudre, un pont-canal, et il va multiplier ses ponts-canaux par 40. Donc, avec 40 ponts-canaux, effectivement, le canal devient enfin navigable. Sans Vauban, il n'y avait pas de canal.
C'est un vrai travail d'équipe, mais alors sur...
Riquet est un gros entrepreneur. Si on voulait faire une traduction moderne, avec le panache évidemment du grand siècle en plus, ça serait un Bouygues ou quelqu'un qui a fait un constructeur d'autoroute. Hein. Voilà, c'est un grand...
Il faisait ça pour en tirer profit?
Bien sûr, bien sûr. C'est une entreprise privée.
Et pour être reconnu par la cour, parce qu'il n'a qu'un rêve en fait. S'il s'engage dans ses travaux à un âge où on prend la retraite d'habitude, c'est parce qu'il veut une reconnaissance. Il est riche, il a tout ce qu'il faut. Mais ce qui lui manque, c'est la noblesse, être reçu à la cour. Et par ce chantier, il pense atteindre, faire quelque chose d'universel, bien entendu, et de formidable pour le royaume.
Voilà. Et puis marquer son temps, oui, voilà. Et puis, il a investi beaucoup de son argent dans ce chantier-là.
Oui, oui, il a investi. Il y avait un système de financement, donc province, État, enfin, trésor royal et fonds personnels. Hein, c'est très moderne là aussi. C'est l'équivalent.
C'était un partenariat public-privé.
Voilà, absolument. Hein, pour faire vite,
les PPP de l'époque.
État, collectivité, la région, on peut dire, et des fonds privés. Voilà. Donc il a effectivement, mais étant du fait qu'il était lui-même collecteur d'impôts et du fait du système particulier, mais tout ça on l'apprendra dans le film, il pouvait jouer avec l'argent, voilà, et donc s'en servir comme trésorerie pour alimenter son entreprise privée.
Combien d'ouvriers se sont attaqués à ce chantier, vous le savez?
Je crois que le pic a été de 15 000 ouvriers, entre 15 et 18 000 ouvriers, je pense.
De 15 et 18 000 ouvriers. Pour construire ce fameux canal du Midi, la fabuleuse histoire de Monsieur Riquet, créateur du canal du Midi, c'est ce soir au Cap Cinéma Le Paris à 20h30, donc une projection à 5,80 €. À la fin de la projection, vous pourrez discuter messieurs, dames, Jean Péris et Michel Tesser. Merci d'être venus ici pour nous en parler.
Et merci à vous.
Merci.
Et à bientôt. Merci Henri Guess.
Je vous en prie. Merci.
L'association
du
Club des Cinéphiles se porte bien?
Très bien, oui, oui. On continue notre activité. Après-demain.
Oui, allez-y, oui.
Après-demain, à l'ancien collège, on passe un documentaire sur le film L'Empire des Sens. Le film japonais qui a fait beaucoup parler de lui en 1976. Donc, c'est un documentaire qui retrace un peu la genèse de ce film très, très sulfureux. C'est à 18h jeudi.
En attendant, c'est ce soir, 20h30 au Cap Cinéma Le Paris, la fabuleuse histoire de Monsieur Riquet.